VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Amis de Jean 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RCA, au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tuées, 29 autres blessées lors d'accrochages durant les 7 derniers jours dans le nord-ouest du pays, sur l'axe Bria-Yalinga. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, OCHA. L'identité des belligérants dans ces combats reste inconnue jusqu'à ce jour. Bria, qui se trouve à 400 km au nord-ouest de Bangui, a été en proie à une recrudescence de violence entre le 16 et le 19 août, qui ont fait au moins 13 morts. Des affrontements qui ont opposé la milice ex-CDK du FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique d'Abdoulaye Hissène, à des miliciens anti-Balaka. Bria est le cœur de la zone de production de diamants dans l'est du pays, avait souligné fin 2016 le groupe d'experts de l'ONU sur la Centrafrique dans un rapport, en notant que le trafic illicite de diamants en provenance de Bria s'est développé. Le polémiste français Kémi Séba a été acquitté mardi par un tribunal de Dakar au Sénégal où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA. Lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août dans la capitale sénégalaise, le parquet avait réclamé une peine de 3 mois de prison avec sursis contre Kémi Séba et la relaxe de son co-prévenu. Jemal Taleb, avocat d'affaires, a saisi l'occasion de la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique par le président français Emmanuel Macron pour donner son opinion sur le CFA.
J'ai bien peur que la France n'ait pas encore compris que le franc CFA est une donnée de l'histoire coloniale et qui n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai bien peur que les dirigeants français ne l'aient pas compris. J'ai d'ailleurs pas davantage confiance dans les chefs d'État africains aujourd'hui qui n'ont tous pas le courage de le comprendre. L'ancien président ivoirien, le président Gbagbo, disait une chose à juste titre. Il dit « Nous avons deux problèmes, le franc CFA et les armées françaises en Afrique. Il faut relativiser. Moi, je ne suis pas pour casser quoi qu'il en soit, mais je pense que le franc CFA n'a plus de sens aujourd'hui. »
Jemal Taleb, avocat d'affaires à Paris. Relations États-Unis-Afrique, l'administration Trump poursuit sa croisade contre l'immigration clandestine. Elle a décidé de ne pas accorder des visas aux ressortissants de 4 pays africains qui auraient refusé de coopérer pour l'expulsion de leurs compatriotes. Parmi ces pays, la Guinée. Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée à Washington, explique le cas de ses compatriotes.
Tous ceux qui ont été notifiés, ils ont postulé pour être éligibles à la green card, on leur a refusé, donc ils sont versés automatiquement dans la catégorie des gens séjournant aux États-Unis sans papier. Donc c'est ce qui voulait dire les notifier à la déportation. Pour le moment, nous sommes à 75 déportés et il y a encore des chiffres parce qu'on vient de me déposer un certain lot qu'on vient de déposer à l'ambassade. Nous sommes en train d'examiner avec les nouvelles autorités parce que vous savez, il y a eu un remaniement chez nous. Le nouveau ministre, nous sommes en train de travailler et nous allons prendre des initiatives rapidement pour rétablir l'ordre des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée n'a jamais refusé de recevoir ses citoyens.
Mamadi Kondé, ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé 11 passagers d'un bus mardi près de la ville pétrolière de Port Harcourt dans le sud-est du pays. Les précisions de John Lyndon.
Ils nous ont tendu une embuscade vers 21h entre les communes d'Ndélé et Lélé Alimini et après nous avoir demandé de sortir du bus, ils ont essayé de nous amener en brousse, mais 5 d'entre nous se sont échappés avant l'arrivée des secours, a déclaré un rescapé de l'attaque. Joint au téléphone, un autre passager ayant réussi à fuir a confirmé l'attaque, précisant que 15 passagers et le chauffeur se trouvaient à bord du bus au moment de l'attaque. Des équipes mixtes composées de policiers et de soldats ont été déployées dans la zone à la recherche des ravisseurs et de leurs victimes. C'est le 3e incident de ce type qui survient en l'espace de 2 mois dans la région. Le ministre de la police de l'État de Rivers, Ahmed Saki, a affirmé hier lors d'une conférence de presse que les recherches pour retrouver les victimes étaient toujours en cours. Les enlèvements contre rançon sont fréquents dans le sud-est pétrolier du Nigeria, où les gangs criminels ciblent généralement les travailleurs expatriés. L'or noir représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo se poursuit à La Haye. L'ancien leader est poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité. Et ses avocats plaident pour sa mise en liberté provisoire. Des milliers de personnes suivent ce procès de très près en Côte d'Ivoire, notamment Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo. Notre correspondant Georges Ibrahim Tonkara est allé à sa rencontre.
Nous sommes en contact régulier mais indirect.
C'est-à-dire ?
Je ne peux pas en dire plus.
Michel, fils de Laurent, et pas n'importe lequel. Laurent Gbagbo, le prisonnier le plus célèbre au monde. 6 ans que Laurent Gbagbo est en prison. Comment le fils vit-il cette détention ?
Être son fils m'habille, me vêt d'une certaine responsabilité. Je ne dois pas dire des mots qui jettent de l'huile sur le feu parce que la situation est assez instable dans ce pays. Il faut travailler avec tous les acteurs. Il ne faut pas simplement penser qu'un camp est le groupe des saints, un camp est le groupe des méchants. Non, c'est tous les Ivoiriens qui ont été responsables.
Né le 24 septembre 1969 à Lyon, d'une mère française, Michel a toujours navigué entre deux cultures, entre deux pays. Ses parents se sont vite séparés. Michel a suivi son père. Il a longtemps été dans l'ombre de ce dernier avant d'être propulsé au devant de l'actualité à la faveur de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Arrêté en même temps que son père, en avril 2011, il est conduit à Bouna dans le nord-est du pays. Il y séjournera 2 années. En liberté provisoire, Michel organise la résistance auprès des cadres du parti. A-t-il des ambitions politiques et comment s'est-il retrouvé dans l'arène politique ?
Est-ce que c'est moi qui m'intéresse à la politique ou est-ce que c'est la politique qui s'est intéressée à moi ? C'est une question difficile, mais c'est comme si vous demandiez au fils d'un joueur d'échecs depuis quand est-ce qu'il s'intéresse aux échecs. En fait, j'ai toujours vécu dans ce milieu-là et pour le moment, je pense que au-delà de ma personne, tous ceux qui se reconnaissent dans le président Laurent Gbagbo doivent travailler au retour du président Laurent Gbagbo, qui est un élément essentiel à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous avez des ambitions politiques ?
Pour le moment, tout ça, je considère que c'est superfétatoire.
Jean-Marie Kouassi Aoussou est éditorialiste ivoirien. Il connaît bien Michel Gbagbo, un homme, dit-il, bien différent d'un Joseph Kabila ou d'un Karim Ouad, ses fils de président habités par l'impérieux désir du pouvoir.
C'est un homme de conviction. Aujourd'hui, à l'intérieur du FPI, il mène 3 combats. Le combat de la pérennisation de l'œuvre de son père, de la survie du FPI et surtout le combat de la libération de son père. Je pense que c'est dans ça qu'il s'inscrit. Mais il n'a pas toujours été le fils d'eux. Et c'est ça, moi, qui m'a énormément plu chez lui. Son père était présent, il aurait pu rester dans le système des rentes qui s'est développé autour du fauteuil de son père pour vivre peinard. Maintenant, il a fait ses études et on ne l'a jamais vu rouler carrosse à Abidjan.
Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Kenya, le compte à rebours a commencé. La Cour suprême annoncera sa décision demain vendredi sur le recours déposé par l'opposant Raila Odinga qui conteste la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta aux récentes élections. Les détails avec Eric Manirakiza.
La Cour suprême a déclaré hier tard dans la nuit qu'elle a terminé l'examen sur le fond du recours pour irrégularité du scrutin du 8 août. La plainte a été déposée par l'opposant Raila Odinga qui conteste la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Les avocats représentant NASA, une coalition de l'opposition, ceux de la commission électorale et de M. Kenyatta ont présenté tour à tour leurs arguments et des contre-arguments devant la Cour. Son président David Maraga a indiqué que les débats ont amené les parties à la fin de la procédure et a précisé que le jugement sera annoncé vendredi. Si la Cour valide l'élection, M. Kenyatta sera investi une semaine plus tard pour un second mandat de 5 ans. Au cas contraire, la commission électorale disposera de 60 jours pour organiser une nouvelle présidentielle. 2 jours de manifestations qui ont suivi l'annonce de la victoire de M. Kenyatta avaient provoqué des émeutes dans des bidonvilles de Nairobi et dans l'ouest des bastions de l'opposition. La répression policière a fait au moins 21 personnes tuées les 11 et 12 août.
Et pour terminer, relations États-Unis-Russie, sur ordre de Moscou, près des 2/3 du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie devront avoir quitté le territoire russe vendredi, symbole de la détérioration des relations entre les deux pays et des espoirs déçus d'embellie suscités par l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. La réduction drastique de 755 diplomates et employés russes ou américains du personnel de l'ambassade et des consulats américains a été décidée fin juillet par le président russe Vladimir Poutine en riposte à de nouvelles sanctions de Washington contre Moscou. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.rfi.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.